18h34 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et l'inquiétude mondiale autour du coronavirus, la Mongolie ferme sa frontière avec la Chine, l'Allemagne déconseille tout voyage dans ce pays, tandis que plusieurs pays, dont la France, préparent l'évacuation de leurs ressortissants. Toujours 3 cas confirmés chez nous, 2 à Paris, 1 à Bordeaux. Des patients dont l'état est stabilisé. Le directeur général de la Santé vient à l'instant de tenir une conférence de presse avec des nouvelles rassurantes. Édouard Philippe à Auschwitz, en Pologne, entouré de lycéens français à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp nazi. Emmanuel Macron est élu au mémorial de la Shoah à Paris. La République doit être un rempart face à la résurgence de l'antisémitisme, a redit le président. Troisième demande de remise en liberté rejetée pour Patrick Balkany. Son avocat se dit très inquiet au vu de son état de santé qui se serait dégradé. Mon mari est en danger mortel, dit Isabelle Balkany. Et puis l'annonce de la sélection du guide Michelin et ses étoiles qui brillent ou qui se ternissent d'une année sur l'autre. Ça y est, on a les toutes premières infos et notamment le chef Kobayashi, premier japonais à recevoir 3 étoiles en France. Son restaurant est situé à Paris dans le 1er arrondissement.
On a l'adresse, merci beaucoup Isabelle, à tout à l'heure, 19h. Anissa, beaucoup de pluie demain.
Oui, effectivement, il y a une perturbation qui est en train de traverser notre pays, qui nous apporte déjà beaucoup de pluie aujourd'hui. Et bien demain, c'est le ciel de traîne, l'arrière de cette perturbation, qui là aussi va vous apporter beaucoup de pluie. Alors sachez que demain, les seules parties de la France qui seront au sec sont le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône, la Provence et la Côte d'Azur. Plus d'éclaircies dans l'après-midi, quelques brouillards matinaux dans ces régions. Sur les Vosges, le Jura, les Alpes, il pleut et il neige même à basse altitude à partir de 400 mètres. Et sur tout le reste du pays, eh ben c'est un ciel de traîne, je vous le disais, avec quelques toutes petites éclaircies vraiment timides. Mais c'est un temps très gris et très pluvieux pour demain. Attention, les pluies pourront prendre un caractère orageux en Bretagne et sur le Cotentin. Les températures, elles sont douces. 2 à 10 degrés de Belfort à Bordeaux demain matin, 5 à Paris, 8 à Nice. Dans l'après-midi, nous aurons 8 à 18 degrés de Paris à Bastia.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Vous êtes entouré ce soir de Charles Villeneuve, de Gérard Carrérou et de Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio pour évidemment évoquer dans un petit instant ces commémorations, le 75e anniversaire des événements de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre sur cette rupture consommée. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, cette rupture consommée entre Cédric Villani et Emmanuel Macron?
Oui, on peut le dire.
Charles, je vous sens là sur ce...
Oui.
C'est quoi, c'est une fin de non-recevoir que Cédric Villani lui a servi sur un plateau hier?
Absolument, moi je trouve que c'est une sorte de camouflet qui montre que le pouvoir n'a aucun filtre, c'est-à-dire qu'habituellement... On fait passer le récalcitrant, si vous voulez, dans une sorte de salle de décompression avec un conseiller qui essaie de le convaincre, de le ramener à la raison, etc. Vous savez qu'on lui a même envoyé un envoyé spécial, le Bayrou, qui pendant 10 jours a essayé de le ramener à la raison.
Voilà, ouais.
Le président de la République et même, si vous voulez, l'état-major politique qui a essayé aussi plus ou moins de le convaincre, considérer qu'au fond... Au départ, c'était pas mal parce que Villani parlant au centre-gauche et puis Griveaux parlant au centre-droit, puis on pouvait additionner les deux. Tout ça est raté.
Patatras, comme on dit.
Finalement, le Cédric Villani, Cédric la science, il a refusé de se rendre à la raison.
Et il a refusé de se rendre à la raison et les conséquences, quand même, elles ne sont pas négligeables, Gérard Carrérou, au grand dam du parti présidentiel, évidemment, mais avec tout ce que ça engendre en termes d'image. Parce qu'il va se faire tirer les bretelles, on essaie de le ramener dans le giron, et ben non, il résiste, il est le rebelle, et tout cela au su et au vu de tous.
Oui, c'est une mauvaise affaire, incontestablement, pour le parti présidentiel, qui est déjà... Disons, il n'est pas ancré dans le pays, donc il est déjà en difficulté pour son ancrage dans un certain nombre de villes, on le voit, où les scores des sondages, les sondages lui donnent des scores très faibles, parfois autour de 7, 8, 10%, 12%, c'est-à-dire largement en dessous de l'étiage du président de la République au premier tour de la présidentielle. Donc déjà, il y avait une difficulté. Et là, il y a quelque chose qui est très mauvais pour l'image même du président de la République, car... Effectivement, dans la Ve République que nous avons vécue depuis assez longtemps déjà, depuis quelques décennies, quand il y avait un problème, il y a eu des problèmes de ce genre où il fallait trancher, mais en général, le coup était préparé et négocié d'avance. C'est-à-dire que le stade ultime qui était celui qui voulait se maintenir était reçu par le président, les jeux étaient faits. on savait qu'il allait dire à la sortie, eh bien oui, finalement, j'ai beaucoup réfléchi, et le président de la République, fort intelligent, m'a convaincu, etc. Et donc, je me retire.
Or, là, on lui donnait Gérard,
ou on lui donnait, une place non, mais bien de sûr, ministre. Oui. Mais c'était ou négocié, on lui
mais
donnait
ça se faisait
un lot.
En quelque sorte en catimini, enfin, ça se réglait.
Voilà, on lui donnait un lot de consolation, je ne sais quoi, une ambassade, un poste, et éventuellement la promesse d'un poste, d'un poste ministériel. Un poste ministériel, bon, en tout cas, c'était géré. Mais là, ce qui est une faiblesse et qui porte une atteinte au président de la République, c'est qu'on a l'impression que le président n'est même pas capable d'imposer à un de ses soutiens, c'est quand même un de ses soutiers, j'allais dire, un de ses soutiers
soutiens. C'est lui qui l'a fait député.
Il en a fait un député et il n'est même pas capable de lui imposer de se retirer dans une élection qui est quand même très importante, parce qu'on sait bien que des municipales, on va retenir quoi ? Le score à Paris, le score dans quelques grandes villes. Et donc, s'il y a une défaite cuisante de la République En Marche à Paris, eh bien, on pourra dire que le président de la République a mal joué son jeu.
Roselyne Feff, c'est cadeau ça ? C'est cadeau pour les adversaires politiques d'Emmanuel Macron et
oui,
pour
parce qu'on on le voit aujourd'hui dans les sondages. En fait, puisque Rachida Dati,
le sondage du week-end, dans deuxième position avec.
Ce que je voudrais ajouter, c'est que cette affaire est mal embouchée depuis le début. En fait, c'est ça le sujet. Il fallait soit il excluait Villani dès le début, mais est-ce que dans le fond on pouvait éjecter de
cas,
la République
hein,
en
ce soir.
Est-ce que Emmanuel Macron pouvait dans le fond faire ce que lui a fait, c'est-à-dire aller à la conquête comme ça en désobéissant, en franchissant le Rubicon, bref, en étant le terme à la mode, disruptif, et aller à la présidentielle. L'erreur, c'est d'avoir attendu. Et l'Élysée s'est dit, il y en a bien un qui va bouffer l'autre. En fait, c'était ça le calcul.
Oui.
C'était de dire, à la fin, on fera les comptes et soit on sera du côté de Griveaux, soit du côté de Villani. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Ouais. On s'est rendu compte que 1 plus 1, normalement, devait faire 1. Et là, c'est 1 plus 1 égale 0.
Exactement.
Puisqu'effectivement, celle qui prend la place, c'est Rachida Dati.
C'est 1 moins 1, là.
Voilà. Et donc, ce que je voudrais juste dire, pour rebondir sur ce que disait Gérard, c'est qu'effectivement, cette médiation, peut-être qu'Emmanuel Macron aurait dû la faire en sourdine, en tout cas,
Mesa
Voce, et pas du tout, effectivement.
Parce qu'il a l'air de vouloir quelque chose et l'autre lui fait un pied de nez.
Oui.
Exactement. Alors on s'en reparle dans un instant parce que comment ça peut se terminer tout ça ? On va voir parce que Benjamin Griveaux, il n'a pas de quoi faire le fier. On se le dit dans un instant.
Et vous pouvez vous aussi participer au débat des grandes voix. N'hésitez pas à réagir, à venir poser vos questions en direct au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Et avec vous ce soir, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Roselyne Feffre, chef du service politique de France 24.
Voilà, on se reparle évidemment de ces municipales à Paris. On s'en approche à grands pas et on voit bien qu'à cette semaine des municipales, c'est compliqué pour le candidat, La République En Marche, Benjamin Griveaux. Toutes ces discussions à l'Élysée, notamment ce week-end, c'est un cadeau aux adversaires politiques. On parlait de Rachida Dati, 20%, 3 points seulement derrière Anne Hidalgo ce week-end dans le dernier sondage. Et puis cadeau aussi, et ce sera d'ailleurs l'invité de Aurélie Herbemont, le candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, David Béliard. C'est cadeau aussi pour Les Verts.
Il y a deux candidats maintenant. Il y a deux candidats qui aujourd'hui vont mener le jeu de la campagne.
Deux candidates.
Deux candidats, dont une candidate. Au sens générique du terme. Deux candidats, dont une candidate, si vous préférez. Une candidate et un candidat. Parce que Paris, effectivement, depuis Étienne Marcel, c'est pour ça qu'on ne voulait pas qu'il y ait de maire de Paris élu au suffrage universel. Paris est une ville qui se rebiffe, se rebelle.
Sauf en 1789.
Oui, mais la plupart du temps, elle était rebelle. Donc, on ne voulait pas qu'elle ait un maire. Maintenant, elle a un maire et elle ne voudra pas véritablement, surtout qu'il n'est pas formidablement charismatique, elle ne voudra pas du candidat officiel. Donc, elle l'a rejeté déjà dans les sondages, le candidat officiel. Et en plus, le candidat officiel, il y en avait deux. Donc, du coup, c'est râpé de ce côté-là. Mais il restera.
Donc, vous êtes plié ?
Ça a permis. Non, c'est pas plié, mais je dis c'est râpé pour que le candidat sorte avec un très grand score. Mais il y en a deux qui ont, eux, du coup, profitent de leur chance. C'est Rachida Dati. On ne donnait pas tripette sur les Républicains. Elle est maintenant à 20%. Et quant au candidat Béliard, lui, il est en train d'imaginer un schéma où il pourrait récupérer à la fois outre l'électorat écologique, une partie de l'électorat de Villani et une partie de l'électorat de gauche. Et donc, on a ces deux personnes-là qui vont jouer un jeu.
Mais il y a quand même une donnée politique classique qui est inscrite dans l'histoire, en quelque sorte. Rappelons-nous 77, quand l'envoyé spécial du pouvoir, Michel Dordano, se présente contre le dissident, en quelque sorte Jacques Chirac, qui a démissionné de son poste de Premier ministre. De la même manière, d'ailleurs, aussi de la Noé, quand il se présente contre le système, souvent, par exemple, Griveaux, qui exhibe pas mal de ministres, je trouve que c'est une contre-performance sur ce plan-là. Oui, parce qu'on vote contre le pouvoir central, au municipal. C'est pas toujours vrai aux européennes, ça l'a pas été. Ouais. Et puis au présidentiel aussi, et aux législatives. C'est pas la même chose, c'est pas la même élection.
C'est pas la même élection. Roselyne, contre Jacques Lang à une époque.
Roselyne, c'est compliqué pour Griveaux, d'autant qu'il a quand même un certain nombre, j'allais dire, de casseroles, passez-moi l'expression, parce qu'il est mal aimé, il a une mauvaise réputation à Paris.
Oui. Il n'attire pas tellement la lumière.
On l'a souvent taxé d'arrogance.
C'est vrai, c'est vrai qu'il
Comment se refaire en cette semaine?
Ça va être compliqué. On dit toujours que quand on part divisé, c'est une machine à perdre. Donc vous posiez la question tout à l'heure, c'est cadeau pour qui? C'est cadeau, pas compliqué, pour Anne Hidalgo, qui était quand même sous le feu des critiques. Elle était vraiment dans le creux de la vague il y a un an, si bien que certains se disaient, mais elle ne sera jamais réélue entre les travaux, la saleté, les rats. Tout le monde en
les
avait
bouchons.
Ras-le-bol. Alors, évidemment...
La
grève l'a servi.
Sur le plan des transports,
absolument,
notamment.
Et à part quelques bobos à vélo qui adoraient ça, et tant mieux. Ils ont peut-être raison. Ces bobos à vélo...
Vous savez que c'est d'ailleurs Anne Hidalgo qui me l'a dit. Moi, j'ai dit, écoutez, j'ai un peu mal au dos, etc. Elle me dit, mais il y a des vélos électriques.
Mais oui, c'est bien, mais qu'elle développe tout ça. Moi, je suis tout à fait...
Non, mais la grande victoire, c'est...
En tout cas, elle était vraiment sous le feu des critiques.
Avec Gérard, on viendra au Grand
Bois en vélo électrique. Victoire aujourd'hui. Effectivement, j'ai parlé des deux autres parce que c'est les outsiders, mais bien évidemment, la favorite, c'est Hidalgo aujourd'hui.
Alors, juste un mot pour boucler la boucle, c'est mercredi soir, pour être exact, donc que le bureau exécutif de La République En Marche actera le fait que Cédric Villani n'est donc plus adhérent de La République En Marche. Voilà, pour boucler la boucle sur ce dossier, je voudrais qu'on se garde du temps dans une seconde pour revenir sur les commémorations autour de la Shoah, la prise de parole d'Emmanuel Macron aussi sur la comparaison Shoah-guerre d'Algérie. Ça ne vous a pas échappé.
Non.
C'était ce week-end. C'était dans le retour de l'avion présidentiel Jérusalem-Paris.
Vous écoutez Le Monde Changé, c'est votre grand journal du soir, tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24.
On a beaucoup parlé du devoir de mémoire et plus encore en ce 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Mais je voudrais vous entendre aussi ce soir sur cette petite phrase qui au départ est passée inaperçue. C'était dans l'avion qui ramenait Emmanuel Macron de Jérusalem vers Paris. Il a dit ceci, pour faire simple, je suis très lucide sur les défis que j'ai devant moi d'un point de vue mémoriel et qui sont politiques. La guerre d'Algérie est sans doute le plus dramatique, je le sais, depuis ma campagne. Elle est à peu près le même statut que la Shoah pour Jacques Chirac en 1995.
Oui, c'est alors, trop intelligent,
j'ai fait un résumé, vous l'aurez compris.
C'est ce que vous avez dit, ça, effectivement.
Oui, voilà,
mais c'est trop intelligent parce que... ce que je veux dire par là, c'est trop intellectuel. Le simple fait, dans un entretien, effectivement, dans l'avion en plus, pas un entretien face caméra, etc., de mettre les deux mots... Oui. Guerre d'Algérie d'un côté, Shoah de l'autre, ça a créé effectivement une émotion et surtout un désaveu de la plupart de ceux qui... On ne peut pas comparer, moi je pense qu'on ne peut pas, en aucune manière, comparer la Shoah, qui est un drame dont j'espère qu'il ne reviendra jamais, même s'il y a des, comme il l'a dit dans son discours, il y a l'antisémitisme qui rôde, etc., en Europe et tout. Mais quand même, un événement paroxystique avec la volonté de détruire jusqu'au dernier des hommes considérés comme des espèces d'extra-humains, et une guerre d'Algérie qui était un des aspects d'une décolonisation qui a été effectivement une guerre difficile.
Horrible, même sanglante.
Où il y a eu des exactions de part et d'autre, de part et d'autre, du FLN et parfois de l'armée française avec la torture. Tout ça, on ne peut pas rapprocher. Alors l'idée, Macron, quand je dis qu'il est trop intelligent, c'est quand il dit « oui, j'ai eu un défi mémoriel », un peu comme Chirac avait eu un défi mémoriel avec Pétain, le Veldiv. Et moi, j'ai ce défi avec le Paul. Et ça, ça ne parle pas aux gens.
Non, mais c'est lui qui crée la confusion.
C'est lui qui crée la confusion.
Il crée la confusion parce que d'abord, il compare ce qui est incomparable, un véritable crime contre l'humanité, et une décolonisation dont il dit que c'est un crime. Il le dit durant sa campagne présidentielle, notamment en Algérie. Et il revient par trois fois là-dessus. D'ailleurs, il dit qu'il ne regrette rien de cette expression. Il l'a confiée. Et donc, partant de là, cette confusion qu'il entretient, d'ailleurs, dans l'avion, il faut bien se dire une chose, c'est que ça porte pas chance aux hommes politiques, l'avion.
Oui, parce que c'est des confidences à chaque fois qu'il
Rappelons-nous Lionel Jospin sur l'âge du capitaine, en l'occurrence Jacques Chirac, qui va lui coûter sans doute une partie de son élection, enfin de sa candidature à l'élection présidentielle. Donc, c'est lui le principal responsable de cette affaire. Et il l'a dit d'ailleurs au début, quand il a été élu, quand on est chef de l'État, il vaut mieux garder une certaine distance et pas trop bavasser. C'était, je trouve, une sage intention qu'il, manifestement, il est en train de délaisser.
Et c'est compliqué, Roselyne Febvre, parce qu'il parle beaucoup, et Gérard le dit, c'est peut-être trop intelligent, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas... Oui, mais est-ce qu'effectivement, il ridiculise pas son propre discours, la veille au Forum mondial de la Shoah, enfin quelques heures plus tôt. C'est une autodestruction.
Je pense qu'il est maladroit. Et une fois de plus, effectivement, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Et Gérard l'a rappelé, c'est vrai qu'il ne me remet pas en cause la singularité de la Shoah, ni son unicité. Ça, je veux dire, personne ne peut l'imaginer, bien évidemment. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il compare le défi mémoriel, le sien, effectivement, qui est la guerre d'Algérie, puisqu'il a fait plusieurs incursions sur le sujet, je vous rappelle, notamment quand il était en campagne électorale pour la présidentielle. Et puis surtout, il a reconnu le mathématicien Maurice Audin, qui est pro-indépendant, qui était mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France. Donc, c'est ça qui veut dire en réalité. Mais on ne le comprend pas. D'abord parce qu'il utilise le mot Shoah. Peut-être qu'il aurait dû parler du Veldiv.
Oui.
D'abord parce que Shoah,
la rafle.
Quand on sait qu'un jeune sur cinq, c'est pas ce que ça veut dire.
Donc, six. Sur six.
Ou sur six, ce qui est pire.
Mais quand même, est-ce qu'à force comme ça de faire cavalier seul, enfin pardonnez-moi, de se distinguer, de jouer quand même parfois même contre son camp, il n'enchaîne pas comme ça
dire. C'est louable de dire qu'il a un défi mémoriel.
Oui.
Mais bon, après, c'est les sables mouvants de la repentance. Où on met les pieds, est-ce qu'on s'enfonce, etc. Double chose, comme le disait.
Vous êtes bien d'accord que c'est lui qui entretient la confusion.
Je pose la question. À partir du moment où vous dites qu'il
est maladroit, c'est lui qui entretient la confusion.
Mais on ne peut pas le taxer de dire qu'il mélange la Shoah et qu'il le met sur un même pied. C'est faux et archi faux de le dire. On ne peut pas dire une chose pareille.
On vous laisse
là où on est malhonnête. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a une malédiction des prises de parole dans l'avion. Parce qu'on se pense détaché, on est fatigué, on se pense détaché des mauvais climats.
Et puis le bruit des réacteurs déforme les moyens.
Mais au moment où il parle du nouvel antisémitisme qui est celui venant de l'islamisme radical et qu'il s'apprête en plus à stigmatiser bientôt, on ne peut pas à ce moment-là, donner un gage pour la guerre d'Algérie.
Je suis d'accord, mais on ne peut pas dire qu'il mélange,
fait une erreur.
Qui dit qu'il met sur le même pied.
Merci les grandes voix, vous continuez là, de l'autre côté, en off, comme on dit.
Oui.
N'hésitez pas. Merci beaucoup, merci à vous.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
L'actualité avec le coronavirus et la conférence de presse à suivre du directeur général de la santé, c'est dans le journal d'Isabelle Mille.
Et votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h.
Europe 1.